Alors, nous nous retrouvons pour continuer cet entretien sur, non pas sur Bach, mais sur le musicologue qui va venir nous parler de Bach très prochainement à Montpellier. Alors, on va peut-être rappeler le jour, l'heure, le lieu.
Parce que c'est tout proche, c'est ce jeudi 19 à 18h au temple de la rue de Maglone.
Voilà.
Parce qu'il faut bien préciser que c'est dans le cadre de la construction du futur orgue du temple.
Oui, il y a une souscription qui est en
voilà,
cours.
Voilà,
absolument.
Voilà, exactement.
Alors donc, de qui parle-t-on ? On parle de Gilles Cantagrel, donc qui a écrit énormément de choses sur Bach. Alors la question que je me posais et que je vous pose du coup, quelle est l'importance pour des interprètes ? Parce que vous êtes interprète, chef de chœur, donc vous avez interpréter beaucoup de compositeurs baroques, mais aussi du Bach, j'imagine. Quelle est l'importance de ce travail de gens comme Gilles Cantagrel pour les interprètes ?
Eh bien, il nous aide à nous replacer exactement au moment où Bach a écrit. Bon, je vais prendre comme exemple les motets. Puisque les motets de Bach, l'ensemble vocal les a travaillés, les a donnés en concert souvent. C'est très important d'avoir l'image historique. Ne pas oublier que Bach ne disposait pas d'un orchestre fantastique. Pour ses cantates, d'abord, n'oublions pas que pour arriver à vivre et nourrir sa grande famille, il écrivait donc des cantates pour le dimanche suivant. Mmh. Le jour même du dimanche, eh bien, il avait des chanteurs à sa disposition, des instrumentistes. Je doute qu'il ait entendu les motets comme un Philippe Hervé est capable de nous les restituer.
Oui, c'était ce côté travail quotidien, oui. Enfin, hebdomadaire en l'occurrence, dont on perd un peu l'idée. On a l'idée du grand compositeur isolé. Non, là, c'était quasiment un fonctionnaire de la musique, quoi. Travaillait à la tâche, quasiment.
Oui, hein. Oui.
Et un peu plus de 200 cantates, c'est bien cela ?
Oh, je ne les ai pas comptées, moi, je ne sais pas. Je suis incapable de vous dire.
Je vois dans le catalogue, les derniers sont des BWV 200
oui,
et quelques.
Absolument, absolument. Non, il en a écrit énormément. Bon, c'est vrai qu'il s'est servi d'un matériau qu'il a repris plus tard dans une cantate et puis dans une passion et puis un motif d'un motet, on va le retrouver dans une cantate, etc. Même dans la messe en si. Ça, je me souviens très bien qu'il y a une cantate où il y a précisément le motif qu'on retrouve dans la messe en si. Du coup, ça me fait penser à la messe en si.
On comprend avec une composition toutes les semaines qu'il se cite lui-même de temps en temps.
Eh bien oui. Hein. Moi, j'avais noté et je me suis dit qu'il faudra vraiment quand même que je trouve... Ah là là, je ne le trouve pas. Bon, allez. Messe et motets, voilà. Jean-Sébastien Bach, il a écrit. Donc, Jean-Sébastien Bach, Passion, Messe et motets en 2011.
Voilà. Absolument. Un peu plus de 400 pages.
Oui, là, oui. C'est
criant, beaucoup de livres sont édités de Gilles Cantagrel.
J'ai même retrouvé...
Par Fayard, qui est un des importants éditeurs en musicologie, en histoire de la musique en France.
Oui. J'ai même retrouvé un ouvrage... qui est donc, dont le titre est en allemand, Unter dem Zeichen des Wassers, qu'il a écrit en 2000, c'est-à-dire sous le signe de l'eau. L'eau est un des éléments que Gilles Cantagrel va même étudier, il va pousser jusqu'au bout, puisqu'il a écrit ce merveilleux livre qui s'appelle Le Moulin et la Rivière, et qui en fait erre et variation sur Bach. Parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais Bach, en allemand, veut dire donc le ruisseau.
Absolument.
Le ruisseau,
si on traduisait, il s'appellerait Jean-Sébastien Ruisseau.
Oui.
Ce qui ferait très bizarre. On a plutôt l'habitude de Johann Sebastian Bach.
Oui, voilà.
Mais en tout, il y a un air célèbre de Schubert qui est Am Bach im Frühling, au bord du ruisseau au printemps.
Au bord du ruisseau, oui.
Alors, oui, donc ça vous apporte cette contextualisation historique, mais c'est aussi quelqu'un qui travaille sur les manuscrits.
Ah, tout à fait.
Est-ce que cette recherche-là aussi, elle est précieuse pour vous ?
Elle est complètement précieuse parce qu'elle nous permet de... Parce que c'est vrai que quand vous abordez une œuvre de Bach avec votre ensemble vocal, bon, vous avez déjà une idée, puisque vous connaissez la musique, elle chante en vous, vous avez une idée de ce que vous avez envie de faire. Et justement, de pouvoir se référer à des ouvrages comme ceux de Gilles Cantagrel vous empêche peut-être d'aller trop loin un petit peu dans votre imaginaire et vous replace dans juste ce qu'il faut et qui peut-être met mieux en valeur l'œuvre que vous êtes en train de faire chanter que si vous l'aviez fait avec tout ce que vous avez envie d'ajouter.
Oui, du coup, ça vous permet d'arriver à une position d'équilibre, je dirais, entre les tenants de la tradition baroque, les ultras, on va dire, tenant de cette tendance, où il faudrait respecter le diapason, respecter les effectifs, respecter... Le matériau des instruments, les techniques vocales, et puis ceux qui sont à l'autre extrême, hein, ce qu'on faisait beaucoup dans les années 50-60, et on met tout un orchestre symphonique. Voilà, on vous donne des versions malériennes de la messe en si, et ainsi de suite.
Oui, oui, mais je vais calmer quand même tous les puristes en leur disant qu'il n'y a pas deux églises à Leipzig qui ont le même diapason. Donc, voilà, ça calme tout le monde. Je pense que le mieux, c'est de trouver un diapason qui va correspondre à l'acoustique aussi de l'église où vous avez l'intention de faire votre concert.
Oui, et puis, il y avait, on voit bien que dans l'œuvre de Bach, il y a aussi cette... il écrit de la musique, mais il ne se soucie pas toujours de où ça va et comment ça va être joué, puisque on a l'art de la fugue qui est... on a la partition, mais on peut le jouer à l'orgue, on peut le jouer avec un quatuor à cordes, on peut faire un peu
tout,
ce qu'on veut. Parce
un quatuor de flûte à bec aussi, c'est merveilleux.
Voilà. Il n'y a que la musique qui est écrite, mais ce n'est pas distribué, il n'y a pas de partition au sens propre du terme, c'est-à-dire qui répartit la musique entre les différents instruments.
Je pense qu'il serait très heureux aujourd'hui d'entendre tout ce qu'on fait, tout ce qu'on propose pour interpréter sa musique.
Donc, alors voilà, donc tout ça pour vous parler, là, on parle beaucoup de musique, hein. Si vous vous intéressez à la musique, si vous êtes un peu curieux de musique, pourrez venir écouter ce grand monsieur qui est Gilles Cantagrel, qui parle de Bach avec une certaine simplicité. Il avait l'habitude de faire de la radio, donc même si c'était sur France Musique, on a le souci de ne pas s'adresser qu'à des spécialistes, qu'à des musicologues, donc, et qui vous fera peut-être découvrir des aspects que vous méconnaissez de cette musique, de l'interprétation de cette musique, de l'époque à laquelle elle a été composée, et vous donnera peut-être envie d'aller écouter un peu plus de concerts avec Bach, en vous disant, mais c'est pour tout le monde. Tout le monde peut écouter Bach, il n'y a pas de problème.
Mais bien sûr.
Hein ? Et par exemple, après, vous irez écouter un concert de l'ensemble vocal Clair-Garonne en ayant une oreille un peu plus avertie. D'ailleurs, vous avez des concerts prochainement ?
Alors, prochainement, pas tout de suite, mais on n'est pas du tout avec Jean-Sébastien Bach. On est dans la musique profane française du XXe siècle. Donc avec Roger Calmel, qui est un musicien né à Béziers, qui a écrit énormément pour les chorales d'enfants et chœurs mixtes, etc. Reynaldo Hahn, Jean Alain.
D'accord. Eh bien, on parlera de ça à une autre occasion, quand le concert se rapprochera. Merci beaucoup, Claire Garonne, et à très bientôt.
Merci à vous aussi.